Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu.
Prions. Notre Père, merci pour ta parole, merci pour le Fils de l'homme descendu, venu nous révéler les réalités, la vérité, en ce qui concerne notre vie ici sur terre et en rapport avec toi dans le ciel. Merci aussi pour le Fils de l'homme élevé que tu as donné pour nous sauver. Seigneur, conduis ce moment, s'il te plaît, parle à nos cœurs, enlève-nous de l'obscurité, mets-nous dans la lumière par ta parole. Au nom de Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus va nous parler de cette nécessité-là. Est-ce que vous avez déjà donné une nouvelle vie à quelque chose, une deuxième vie? Vous avez peut-être déjà entendu parler des repair shops, les répare cafés. On n'a pas encore vraiment un mot, on n'est pas très fort, nous, des fois, pour trouver des... Comme le concept, il vient plutôt du monde anglo-saxon. Voilà, les répare-cafés, des lieux où on peut donner une nouvelle vie à des objets utiles mais qui ne fonctionnent plus. Par exemple, votre grille-pain est cassé. Ça va être difficile. Démarrer les journées sans avoir votre toast bien grillé. Votre lave-linge, c'est difficile. Votre lave-linge est cassé. Comment continuer? Votre lave-vaisselle. Alors, vous pouvez aller dans un répare-café. Et quelqu'un qui aime bien bricoler, qui s'y connaît, donne de son temps bénévolement et il va démonter avec vous l'objet, il va identifier le problème peut-être une soudure qui a lâché, et en fait c'est peut-être facile à réparer, et hop, votre grille-pain est reparti pour une nouvelle vie. Si vous avez un vêtement troué ou abîmé, il se pourrait bien que Jacqueline, elle soit capable de donner une deuxième vie à votre avis. Allez, lui poser la question. Dernièrement, mes garçons encore se sont intéressés à une émission à la télé qui s'appelle Vintage Mécanique. Donc, on voit des experts passionnés de mécanique, etc., qui cherchent à redonner une deuxième vie à une voiture sur laquelle on n'aurait pas misé gros au début de l'émission. Ok, redonner une nouvelle vie à des objets. Donc, par définition, sans vie, inanimé. On comprend bien que c'est une expression. Il faut un certain nombre de compétences, il faut pas mal de pièces de rechange. Mais même avec ces éléments-là, ce n'est pas toujours possible. Parfois, quand c'est foutu. C'est bousillé, c'est irrécupérable. Mais maintenant, réfléchissez à un être vivant. Réfléchissez même à votre propre vie. On n'a qu'une seule vie, vous avez déjà entendu cette expression. Dans le sens de, ben justement, vu qu'on n'en a qu'une, impossible d'avoir une deuxième vie, une nouvelle vie. Il faudrait mieux en profiter maintenant, parce qu'après, c'est fini. Comment donner une deuxième vie, une nouvelle vie à des hommes? Et pour soi-même, peut-être. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est pas qu'une question de santé, en fait. J'ai déjà fait tellement d'erreurs, j'ai tellement de regrets, tellement de mauvais choix et des conséquences difficiles à vivre maintenant. Comment avoir une deuxième chance? Est-ce que c'est même possible? Est-ce qu'il y a un répare-café pour la vie humaine? Quelqu'un peut-il donner une nouvelle vie à un être humain, une vie parfaite? Je vous invite à écouter la conversation de Jésus avec Nicodème. On est quelque part à Jérusalem, quelque part autour de l'année 30, mais toujours la même vérité pour nous aujourd'hui qui vivons à Cavaillon en 2017. Il y a trois choses que je voulais à développer, je pense qu'elles sont là dans le passage, mais je vous invite à garder la Bible ouverte et à vérifier que c'est bien là aussi. D'abord, notre vision terre à terre, comme celle de Nicodème, notre vision terre à terre nous conduit loin du royaume de Dieu, versets 1 à 10. Et puis Jésus, le Fils descendu, lui, il connaît les réalités terrestres et célestes, et il enseigne véritablement, en vérité, versets 11 et 13. Et puis, puisqu'il faut naître de nouveau, voilà l'enseignement de Jésus. Alors, regardons au Fils élevé sur la croix. C'est le verset 15 jusqu'à la fin. Vous avez remarqué Nicodème? Vous avez remarqué que il y a une vision très horizontale des choses. Notre vision terre à terre nous conduit loin du royaume de Dieu. Nicodème, c'est pas n'importe qui dans un sens, et en même temps, il est un digne représentant de tous les humains. Bah, le texte, il nous dit que c'est un homme du parti des pharisiens. Donc c'est un chef, en plus, un chef des juifs. C'est un membre notoire du Sanhédrin. Si vous voulez, une sorte de député dans le contexte d'Israël du 1er siècle. Donc un député dans un contexte où la religion, où la vie privée, la vie publique sont étroitement liées. Une sorte de député qui est en même temps maître de conférence et chercheur à la faculté de Jérusalem, si vous voulez. L'apôtre Jean nous donne une indication du sens de la conversation que nous entendons. Parce que juste, si on regarde le contexte dans les versets qui précèdent, on a vu déjà qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont, semble-t-il, commencé à croire en Jésus à cause des signes miraculeux que Jésus produisait. Alors on se dit, ah ben voilà la foi qui est en train de naître, super! Mais en réalité, la réalité, c'est que Jésus ne se fiait pas à de tels hommes. Parce qu'il les connaissait, et ce n'est pas juste à cause de ce qui était dans le cœur de ces hommes en particulier, ceux-là même qui étaient au premier siècle, mais ce qui est dans le cœur de l'être humain. Jean nous dit que Jésus savait ce qui est dans l'homme, dans l'être humain. En tant que créateur, il a une connaissance profonde du cœur humain. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur ce qui est dans le cœur d'un homme ou le cœur d'une femme. Il n'y a pas besoin qu'on leur enseigne sur ce qui est dans mon cœur ce matin, mais dans ton cœur. Mais Jésus ne veut pas laisser les hommes dans leurs conditions. Il accepte cet entretien avec un homme, du coup, alors du même type que nous tous, Nicodème. Nicodème, il vient trouver Jésus. Lui aussi, il a vu les signes. Lui aussi, il commence à être interpellé. Vous voyez, au verset 2, il dit « Personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, il veut comprendre, il veut savoir plus. Il ne veut pas en rester là. Il vient poser ses questions à Jésus. Il s'adresse à lui, maître, rabbi. Mais techniquement parlant, Jésus n'est pas un rabbi. C'est un charpentier de Galilée. Nicodème, il doit le trouver bien étrange, ce Jésus. Qui est-il vraiment? Dans quelle catégorie le placer? Alors, il dit, tu es certainement un enseignant envoyé par Dieu. Oui, il y a une forme d'intérêt chez Nicodème et en même temps, une perspective hyper horizontale, terre à terre, voire arrogante. Il commence à s'adresser à Jésus en disant, nous savons. C'est un peu comme si tu vas, on a fait une petite réunion d'équipe, là, moi et mes collègues, à la faculté, et nous savons, c'est bon. Voilà, on a réglé le problème. Voilà, on avait une réunion au Sanhédrin, et puis avec quelques amis, bon, on n'est pas tous d'accord, mais nous savons. C'est bon, nous, on a fait notre analyse, et on a compris. Nicodème, il se cache un peu derrière le groupe, là. Et avec une pointe d'autosuffisance, il estime qu'il a la bonne analyse de la situation. Bon, ben, certainement que il y a quand même Dieu un peu avec Jésus, certainement que ça doit être quelqu'un qui connaît quand même quelque chose, ça vaut la peine d'écouter un peu. Mais Jésus, il cherche chacun, personnellement, individuellement. Et voyez comment il répond à Nicodème à plusieurs reprises. Mais Nicodème, je te le dis à toi. Toi, tu peux dire, nous savons, mais moi, je te dis à toi quelque chose très précis. Tu penses savoir des choses sur le royaume de Dieu, tu penses en apercevoir déjà les contours, peut-être en regardant le temple à Jérusalem et en disant, ah, quand même, le peuple juif, c'est pas rien. Le fait qu'on est le peuple allié avec Dieu, c'est quand même, regardez, quel bel édifice tout blanc avec des dorures. Peut-être tu es en train de te dire, tu penses déjà apercevoir les contours du royaume de Dieu parce que tu as vu des signes. Il y a des miracles qui sont en train de se produire en Israël, des gens qui sont guéris. Et c'est peut-être pas le cas ailleurs, dans d'autres pays. Tu t'appuies, peut-être Nicodème, sur le fait que le peuple possède la terre. Oui, c'est vrai, il y a un petit problème. Les Romains sont encore là, mais voilà, dans quelques instants, ils ne sont plus. De nouveau, il y aura des rois qui vont régner au nom de Dieu. Mais en réalité, la perspective de Nicodème, elle est loin de la réalité. Je te l'affirme, dit Jésus. À moins d'être né de nouveau, tu ne peux pas avoir la bonne perspective sur le royaume de Dieu. En fait, tu ne vois rien du tout. Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu es comme un aveugle. Et cette vérité dépasse ce que Nicodème peut comprendre. Lui comme nous, nous tendons à avoir une vision toujours très terre à terre de notre existence. Même de Dieu. On le ramène ici-bas. Naître de nouveau, ou naître d'en haut, il n'y a pas d'autre option possible. Vous voyez Jésus qui lui dit, à moins que de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau. Et Nicodème, quand il entend ça, il se pose pas la question, il choisit la réponse la plus terre à terre. Mais comment ça va se passer alors? Ça veut dire qu'un homme qui est déjà âgé, est-ce qu'il peut vraiment naître de nouveau? Est-ce qu'il doit retourner dans le ventre de sa maman? Vous voyez, Nicodème, qui n'entend pas le langage spirituel de Jésus. Et à nouveau, Jésus est obligé de dire à Nicodème, à moins de naître d'en haut, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème est dépassé. Lui, un juif, Dieu, un chef qui connaît la parole, qui enseigne la parole, il ne comprend toujours rien et il est mis face à son aveuglement et son handicap. En réalité, il n'est capable de rien. Il a du mal à comprendre. Même quand Jésus lui parle, quand Jésus l'interpelle, il ne se laisse pas facilement emmener. Nicodème fait partie de ce groupe de croyants superficiels. Surpris, émerveillé, intéressé par Jésus, par les signes qu'il a déjà vus, mais sans plus. Comme après un bon film ou un bon spectacle, on dirait, oh, c'était bien, Puis le lendemain, on reprend la vie telle qu'elle est. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Plus d'efforts, plus de religion, plus de connaissances. Toutes ces choses sont inutiles, à moins que nous naissions de nouveau pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, comme Nicodème a une vision très horizontale des choses, et si c'est le cas pour un Nicodème, si lui, il est toujours loin du royaume de Dieu, alors qu'en sera-t-il pour nous? Souvent, dans notre orgueil, on a du mal à s'imaginer qu'on n'a pas compris. Parce que pour nous, c'est évident. Et on a tendance plutôt à chercher des confirmations de ce qu'on pense. Et parfois, si on en a pas, on s'en va fâcher jusqu'à ce qu'on trouve absolument quelqu'un qui est enfin d'accord avec nous. Quelqu'un qui valide dans notre sens. Ça pose la question pour nous. Comment est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que nous savons? Nicodème pense savoir, mais il ne sait rien, il n'a pas compris. Ce n'est possible que par la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Alors, il faut nous mettre à l'écoute de l'enseignant véritable d'Israël. Écoutez la parole de Jésus. Voilà la véritable source de la connaissance. Les Juifs, comme Nicodème, avaient lu la Bible, ils connaissaient les Écritures. Ils pensaient avoir accès par leur statut parce qu'ils avaient pas mal de réponses sur Dieu et sur la Bible. Mais en fait, Nicodème est aussi terre à terre que n'importe quel religieux de ce monde. Et même pour nous chrétiens, dans l'Église, peut-être. Peut-être qu'on est dans l'Église depuis qu'on est tout petit. Peut-être qu'on connaît beaucoup d'histoires bibliques. On connaît même l'histoire de Daniel dans la fournaise ardente, ou celle de David dans la grotte. On a fait tout bien, on dit tout bien, mais on n'est pas connecté avec la réalité d'en haut. On a appris des cantiques, on est né peut-être dans une famille chrétienne, mais tous nos efforts, notre religiosité ne nous permettent même pas de voir le royaume de Dieu, à moins de naître de nouveau. Je te pose la question ce matin, où est-ce que tu en es? Et puis autour de nous, il y a aussi pas mal de gens qui sont agnostiques, qui on ne sait pas trop, mais on est quand même intéressé par ce Jésus. On est respectueux de ce Jésus. Ils pensent qu'ils savent. Nous savons, ah oui, j'ai déjà vu un reportage, j'ai déjà vu quelques bribes de la Bible. Mais ils n'ont en réalité jamais entendu parler Jésus. Ils ne se sont jamais véritablement intéressés à ce que Jésus a dit et a fait. Pour eux aussi. Il faut que nous leur apportions ce même message que Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un appel pour nous aussi à ne pas laisser les autres dans l'obscurité. Si ça échappe à Nicodème, ça échappe à tout le monde. Et si nous avons compris quelque chose, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Allons aussi avec ce même message. Parlez à ceux qui sont pour nous. Quel message annoncer? Le même que celui de Jésus. Le Fils descendu du ciel. C'est lui qui voit les choses telles qu'elles sont réellement et qui enseigne véritablement. Vous voyez ça, verset 11 à 13. Jésus s'étonne, il dit à Nicodème, mais toi tu es un enseignant et tu ne sais pas tout ça. Tu ne connais pas le plan de Dieu annoncé dans les Écritures depuis longtemps. Tu ne comprends pas que le témoignage de Jésus, le témoignage que Jésus apporte, la façon dont Jésus parle, ça concorde, c'est exactement en accord avec les Écritures. Est-ce que tu vois pas que Jésus est envoyé de Dieu? Et pas juste un envoyé de Dieu, comme il y en a eu beaucoup de prophètes qui ont précédé, mais le Fils descendu du ciel, celui qui est dans l'intimité du Père, est venu nous parler des réalités terrestres et célestes, les deux. Il commence par les réalités terrestres parce que c'est là où nous sommes, mais il veut nous emmener plus loin. Et comme un écho aux paroles de Nicodème, Jésus dit, tout d'un coup il se met à parler au pluriel, nous disons ce que nous savons. Bon, c'est une façon un peu ironique de dire à Nicodème, je pense que vous êtes nombreux et que parce que vous êtes là, un petit groupe, là, vous pouvez résoudre la question. Mais nous disons ce que nous savons. C'est qui ce nous de notre? Je pense que c'est les trois personnes divines, en accord avec les Écritures, bien sûr. Et Jésus dit, et vous, et là maintenant c'est plus juste toi Nicodème qui a un problème, mais c'est nous tous, l'humanité, vous ne recevez pas notre témoignage. Il nous faut écouter le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, parce qu'il parle en vérité. Vous avez remarqué le nombre de fois où l'expression revient. En vérité, je te le dis. Crois-moi, c'est certain, je mettrai ma main à couper. Je ne sais pas quelle expression on trouverait encore aujourd'hui, mais en vérité, il n'y a pas plus solide comme vérité que ce que je suis en train de te dire maintenant, Nicodème. Il n'y a pas plus solide vérité que celle que nous sommes en train de lire, mes amis, ce matin, dans ce passage. Jésus n'est pas en train de blaguer, n'est pas en train de faire mariner Nicodème. Je vais lui faire une petite blague, cette histoire de naissance, pourvu qu'il ne comprenne rien. Puis... Non, c'est sérieux. En vérité, je te le dis, Nicodème. En vérité, je te le dis ce matin. Il faut mettre de nous. Parfois, les gens nous interpellent sur la réalité, quant à la résurrection, la vie éternelle, sur qui est Dieu. Mais nous pouvons aussi, avec la même assurance, parler, parce que nous pouvons connaître celui qui est descendu des cieux. Si cet été, tu vas faire une rando en montagne, dans un endroit que tu ne connais pas, peut-être sur un glacier, tu as des parties techniques, tu as besoin d'un guide, quel guide tu vas suivre? Tu vas suivre celui qui a des références, celui qui a déjà fait le trajet, n'est-ce pas? Celui qui connaît parfaitement la réalité. Jésus est ce guide sûr et parfait. Jésus dit la nécessité de la nouvelle naissance. Quel choc. Quel choc pour Nicodème, quel choc pour nous. La nouvelle naissance, c'est au-delà de notre portée. Jésus explique, il essaie d'amener Nicodème à comprendre c'est quoi cette nouvelle naissance. Et vous avez vu, il y a une sorte de parallélisme entre l'idée de naître de nouveau. J'ai déjà dit ça, naître de nouveau, ça peut se comprendre comme une nouvelle fois, ou alors naître d'en haut, et voilà, avec le langage, les deux choses peuvent être comprises. Nicodème, lui, il a choisi la version horizontale, mais Jésus parle de naître d'en haut, et puis il dit que ça correspond à naître d'eau et d'esprit. Vous voyez ça avec moi? Donc c'est au verset 5. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'eau et d'esprit? Il y a plusieurs interprétations, les principales, mais la première, certains ont vu ici, bah oui, il y a la nécessité de la naissance physique. Donc l'eau qui est mentionnée ici, c'est comme le liquide amniotique dans lequel le petit bébé de naissance se trouve. Et puis, bah, il faut déjà exister physiquement. Et puis après, Dieu fait une œuvre spirituelle en nous. Mais il y a peu de support biblique pour comprendre cette chose de cette manière. C'est une façon très moderne de voir la naissance. D'autres disent que ouais, il s'agit du baptême, il est en train de nous parler du baptême, alors il faut être baptisé, et puis alors, quand on est baptisé, il y a une action de l'Esprit de Dieu en nous, et ça change. Mais le baptême chrétien n'existe pas pour le moment, donc ça n'a pas de sens pour Nicodème, et éventuellement le baptême de Jean, mais le baptême de Jean n'est pas pour une nouvelle naissance, il est pour la repentance. Alors il faut plutôt voir Jésus qui dit au verset 10 à Nicodème, mais tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela? Donc Nicodème a les clés en main. Lui, il doit comprendre de quoi Jésus est en train de parler. Et comment est-ce qu'il peut comprendre en tant qu'enseignant à moins de revenir vers les Écritures? Et c'est cette troisième interprétation, je pense, à laquelle il faut tenir. Et du coup, ça nous interpelle aussi. N'est-ce pas terrible de vivre la vie chrétienne avec la Bible en main, mais de se déconnecter de cela pour notre vie de tous les jours? Ou encore, en ne cherchant pas à la connaître entièrement. Quelques passages, un coup de pouce, un petit coup de pouce pour la route, sans que la Bible, la parole de Dieu, soit celle qui construise notre vision du monde. Toi, Nicodème, tu es un enseignant, tu ne sais pas cela? Mais viens. Et Jésus parle dans plusieurs. Bien qu'on n'a pas l'expression maître d'eau et d'esprit dans, comme ça littéralement dans l'Ancien Testament, il y a les mêmes ingrédients qui sont mentionnés. Un des passages, c'est Ézéchiel 36, 25, que je vais lire. C'est le contexte où le peuple est en exil, loin de la terre promise, pendant de nombreuses années. Il s'est rebellé contre Dieu, il a poursuivi les idoles plutôt que la relation avec le Père Céleste. Et Dieu dit au verset 25 qu'il ne va pas laisser les choses dans un tel état. « Je vous aspergerai d'eau pure, dit Dieu, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Cette formule de l'alliance. Voilà la nature de la nouvelle naissance dont Jésus parle. Ça parle de purification et de cœur nouveau. Notre passage dans l'Ancien Testament, Jérémie 2, 22, c'est Dieu qui parle, il dit au peuple qui, là encore, est dans une situation de rébellion, même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur éternel. Il n'y a pas de savon à Intermarché ou à Auchan ou chez les professionnels, il n'y a pas de savon capable de laver en dehors de cette eau qui vient de Dieu. Ce n'est pas une eau physique, mais une action de Dieu. Vous comprenez l'image? C'est comme prendre une douche après une journée d'été où on est suant et on ne sent pas très bon. On prend une bonne douche. C'est une action puissante, mais pas extérieure simplement, mais intérieure. Profonde, qui dure. C'est pas comme ces changements de nom et d'emballage pour les mêmes produits. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà mangé des Tricks. On rappelle les Tricks. Les Bonitos. Ouais. Alors aujourd'hui, ça s'appelle les M&M's. Et en réalité, c'est la même chose. Les cacahuètes enrobées dans du chocolat. À l'époque, ça s'appelait, dans les années 80, ça s'appelait Tricks. Et maintenant, ça s'appelle M&M's. C'est juste, ils ont créé des petits personnages et tout ce qui va avec. Le même produit, c'est juste l'emballage qui a changé. Mais ce que Dieu fait ici n'a rien à voir. C'est un changement total. Parce que, imaginez-vous, si vous avez pris votre douche, vous vous sentez bien, vous êtes content. Mais vient la nuit, la température ne descend pas. Et le lendemain matin, quelques heures après, vous êtes déjà de nouveau suant et sentant pas très bon. Est-ce qu'il faudrait, c'est non seulement une purification, mais à quoi ça sert? Si on a un cœur qui est changé, mais qui, la seconde après, si on est purifié, mais la seconde après, on se ressalit, alors il nous faut aussi un cœur disposé à suivre Dieu, qui vibre à la parole de Dieu, qui trouve sa satisfaction en Dieu, qui aime la vie selon Dieu, qui aime ses lois, qui aime ses prescriptions, non pas comme une contrainte extérieure, mais comme un désir intérieur. Ézéchiel et Jésus annoncent ce genre de changement, une sorte de transplantation cardiaque. Dieu va ôter le cœur de pierre et mettre un cœur de chair, un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu. Il n'y a pas de scanner ou d'IRM capable de montrer ça. Comment savoir? C'est comme le vent, comme le mistral. Le vent, on ne le voit pas, mais on perçoit ses effets, n'est-ce pas? Si vous êtes dehors en train de manger et qu'il y a un bourrasque de mistral, la nappe, même les assiettes, tout peut s'envoler. Le vent, même si on ne le voit pas, c'est quelque chose de très puissant. On est bien passé ici dans la maison pour le savoir. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, quand je dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut. et tu en entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais tu vois les effets. Et ces effets-là, c'est aimer ce que Dieu aime. Ce que tu faisais pas avant. Avant, tu détestais ce que Dieu aimait. Et tu courais après les choses qui glorifiaient lui. Est-ce que tu as expérimenté ça? D'aimer maintenant ce que Dieu aime et de détester ce que Dieu déteste. Est-ce que tu as remarqué que maintenant tu détestes ce que autrefois tu aimais et que tu aimes maintenant ce que autrefois tu détestais? La même idée que Jésus développe, que Jean plutôt commente un petit peu plus loin en parlant de lumière et de ténèbres. On vient à la lumière. On aime faire des choses qui sont de la lumière. Et on ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà la vraie nouvelle naissance, voilà la vraie conversion. Si tu es né de nouveau, tu vas constater, et les autres autour de toi également vont constater, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Une prière ne suffit pas. Un changement de cœur, ça se voit. Je ne sais pas quel souvenir vous avez de votre naissance, normalement vous n'en avez pas. On vous a dit que vous êtes né tel jour à telle heure, que vous faisiez tel point, que c'était à tel endroit. Alors, peu importe si tu n'as pas de souvenir à un moment précis où tu es né de nouveau. Parce que c'est pareil pour ta vie maintenant. Tu n'as pas de souvenir, n'est-ce pas, de ta naissance. Et pourtant, c'est vrai, tu es né. Et pourquoi tu le sais ça? Parce que en cette seconde même, tu vis. Parce que tu es là. Alors, puisque naturellement notre perspective est terriblement terre à terre, elle nous empêche de voir le royaume de Dieu, même nous éloigne du royaume de Dieu, écoutons le Fils descendu du ciel nous enseigner sur la réalité du royaume et la nécessité d'être purifié de nos péchés et de recevoir un cœur de Dieu. Écoutons et regardons-le, c'est ma dernière partie, car le Fils descendu est aussi celui qui va être élevé. Et si on veut éviter la tragédie de ne pas entrer dans le royaume de Dieu, il faut regarder au Fils élevé. Et Jésus parle à Nicodème et il lui rappelle un événement qui a eu lieu dans l'histoire d'Israël. On peut lire dans Nombre, chapitre 21. Le peuple est sorti d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. C'était la conséquence d'une rébellion, d'un refus d'entrer dans le pays promis. Et cette expérience-là n'a pas été suffisante. Encore dans le désert, il y a de nombreuses occasions où le peuple murmure, se révolte contre Dieu. Voilà un épisode où les Israélites ont recommencé à désirer retourner en arrière, retourner en Égypte. Après toutes ces années, ils sont toujours au même point dans leur cœur. Dieu envoie des serpents venimeux contre le peuple. Et beaucoup meurent parce que... Et beaucoup meurent. Mais pas tous! Car le peuple a finalement recherché la repentance et Moïse a intercédé. Et quand Dieu entend l'intercession de Moïse, Dieu lui dit de faire un serpent venimeux en bronze et de le placer sur une perche. Vous vous rappelez cet épisode-là, en 21? Une petite pause. Vous vous rappelez cet épisode donc dans Nombre 21. Et Dieu dit, toute personne mordue qui regardera ce serpent en bronze sur la perche aura la vie sauve. Pas d'autre remède que de regarder la cause de son mal, le péché, la morsure du serpent qui nous entraîne dans la mort. Pas d'autre remède que de regarder, simplement regarder, à ce serpent cloué sur une perche en bois. Ce même serpent qui est la cause de notre problème est aussi celui qui est vaincu. Le traitement, la punition requise contre ce mal, c'était la mort. La mort que les Israélites sont en train d'expérimenter. Et voilà que la promesse, elle est là, devant les yeux. Le serpent aussi sera coulé au bois. Et vous vous rappelez peut-être d'un message que Hicham avait apporté ici. Il avait bien insisté, pas d'autre moyen que de regarder le serpent sur le bois. Et certains ont cherché à dire vite, vite, désinfectons un petit peu de vin, un petit peu d'huile d'olive, et ça va passer. Mais ils sont morts. Peut-être certains ont dit, oulala, il faut vite aspirer le venin et le recracher. Ceux qui ont fait ça, ils sont morts. Peut-être certains ont dit, il faut brûler vite du feu et désinfecter par le feu. Et ceux qui ont fait cela, ils sont morts. Peut-être qu'il y en a certains qui ont couru vite dans les champs chercher des herbes. Ils ont dit, ah oui, ça peut faire un petit cataplasme, mettre des compresses. Ceux qui ont fait ça, ils sont morts. Il y en a certains qui ont dit, buvons telle sorte de tisane. Ils sont morts. Il y en a d'autres qui ont dit, ben, laissons faire le temps. Ils sont morts. Non, en réalité, il y a un seul et unique moyen de salut. Une seule solution pour vivre après la blessure mortelle. C'est de regarder au traitement de son péché. Et de reconnaître que c'est nous qui méritions d'être accrochés sur ce bois. Tous ceux qui ont regardé à la solution de Dieu ont eu la vie sauve. Ils ont été sauvés. On ne peut pas l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient été mordus comme les autres. Mais Dieu a fait que, par ce seul moyen de regarder, ils ont été sauvés. Et l'appel est clair pour nous. Et nous connaissons plus que nous connaissons encore. Jésus aussi a été fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Regarde à la croix ce matin. Regarde à la croix pour comprendre le terrible jugement qu'exige la justice parfaite de Dieu. Regarde à la croix pour voir à quel point le péché est abject. Regarde à la croix qui révèle l'horreur et la nature du péché, qui le déclare mal, à la hauteur du mal qu'il est réellement. Mais regarde aussi à la croix pour voir l'amour de Dieu. Lui qui a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il faut regarder au Fils et croire. Et peut-être tu ne sais pas expliquer comment tu peux naître de nouveau, comment tu peux obtenir cette purification de tes péchés et recevoir un cœur nouveau, mais peu importe, regarde, il n'y a qu'une seule solution ici. C'est comme pour Israël dans le temps ancien. Regarde à la croix et mets toute ta confiance dans le Fils élevé sur ce bois. Crois et puis aie la vie éternelle, une vie sans mort, une vie nouvelle. La vie éternelle dont on parle ici dans ces versets-là, c'est la même chose que naître de nouveau. La purification des souillures du péché et un cœur transformé pour aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Regarde le Seigneur Jésus élevé sur la croix. Sois lavé de tes péchés par son sang précieux. Et vis non plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort, a donné sa vie pour toi. Si quelqu'un ici n'a pas encore expérimenté cette nouvelle essence, toutes ces choses-là lui semblent obscures, qu'il crie à Dieu, qu'il continue de regarder à Jésus, qu'il continue de lire cet évangile, qu'il continue de chercher à comprendre qui est Jésus, qu'il prie, parce que ce n'est pas nos efforts, mais c'est quelque chose que Dieu donne, qu'il supplie Dieu, l'Esprit Saint de faire cette œuvre-là dans sa vie. Et pour toi aussi, mon ami, chrétien ou chrétien, tu as déjà passé par la nouvelle naissance, mais peut-être ce matin fatigué et lassé du combat. Mais c'est la même chose que nous avons besoin de faire pour obtenir des forces renouvelées. Regarde à Jésus. Regarde au Fils élevé sur la croix pour toi. Ton péché n'est plus, ta condamnation n'est plus, tu as reçu la vie de Dieu, tu es né dans l'eau, relève-toi. Courage. Toi aussi, vis non plus pour toi-même, mais avec le nouveau cœur que Dieu t'a donné. Vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque crois en lui, ne périsse pas, mais aie la vie éternelle. On a vu Nicodème au début du passage, un homme finalement parmi les autres, un exemple de ce que nous sommes dans notre humanité. au chapitre 3, on ne sait pas trop comment Nicodème est reparti. Il y a cette histoire de ténèbres et de lumière. Vous vous rappelez, Nicodème, il est arrivé de nuit. Dans l'évangile de Jean, il y a un petit symbolisme en plus, avec juste les circonstances concrètes de la rencontre de Nicodème avec Jésus. Il est arrivé de nuit. Est-ce qu'il repart dans la nuit ou dans la lumière? Au chapitre 3, on ne sait pas. Mais à la fin de l'évangile de Jean, on retrouve Nicodème au chapitre 19. Avec Joseph d'Arimathée, c'est lui qui enlève la dépouille mortelle de Jésus sur la croix, qui prépare le corps et qui l'ensevelit dans un tombeau d'un cimetière non loin de Golgotha. Finalement, il y est arrivé par la grâce de Dieu. Nicodème, lui, a vu de très près la croix. Et il a cru. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Ou est-ce que tu préfères rester encore dans les ténèbres? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Et comment est-ce que tu repars? Après cet entretien avec Jésus, est-ce que tu as compris? Il faut que tu naisses de nouveau. Seigneur, élève notre regard, s'il te plaît, vers la croix de notre Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour nous, qui a pris le châtiment qui devait tomber sur nous, son sang a coulé pour notre purification. Merci Seigneur pour élever nos regards encore vers Jésus, le ressuscité, qui est puissant pour donner une vie nouvelle à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Seigneur, porte-nous à regarder à la croix et à vivre en accord avec ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, pour nous, c'est impossible, mais pour ton esprit, c'est possible. Nous prions pour ceux qui ne sont pas chrétiens ici ce matin, qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Sauve, Seigneur! Parce qu'il faut naître de nouveau. Accomplis cette nouvelle naissance chez ceux qui n'ont pas encore expérimenté. Et pour ceux et celles qui ont déjà passé par cette nouvelle naissance, Seigneur, donne-nous du courage de nous de persévérer dans cette même foi du commencement pour vivre dans la lumière, pour vivre une vie. C'est ce que nous te prions au nom de Jésus.